Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. Chaque jour, nous vous montrons que la France se bouge, se mobilise et ne s'arrête jamais, même pendant l'été. Et la France ne s'arrête jamais aussi pour l'apéro. Même pendant le confinement, hein, une étude avait montré que 58% des cadres ont fait un apéro visio pendant le confinement. Mais rien ne vaut l'apéro en chair et en os. Et l'été est propice pour pouvoir le faire. On va découvrir des innovations françaises pour passer un apéro convivial et chaleureux. C'est le dossier du jour et ce sera bien sûr après un pitch et une solution. C'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et Jean Moreau, notre coach de la semaine. Bonjour Jean.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Le cofondateur de l'appli anti-gaspi Phoenix. Alors on les découvre chaque jour dans La France bouge, ils se lancent et pourtant c'est la crise comme vous. Bonjour Kamel Naït ou Taleb.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Only One. Only One, c'est le premier compte à impact positif. Alors ça, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Ça existe depuis 2 ans. Eh bien c'est parti, vous avez 1 minute 30.
Effectivement, nous avons créé Only One qui aborde le sujet du réchauffement climatique qui aujourd'hui ne peut plus être considéré comme un mythe mais comme une réalité. On en ressent le phénomène quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde. Et il s'avère que paradoxalement, le système bancaire et financier peut à la fois être un accélérateur de ce phénomène mais aussi peut être la solution. C'est pour ça que nous avons créé Only One, le premier compte à impact positif, avec l'intime conviction que nous avons tous intérêt à investir dans la création d'un nouveau modèle bancaire qui soit plus responsable et plus respectueux de l'environnement de la société. Chez Only One, nous avons décidé d'apporter des solutions concrètes en proposant à tout un chacun, au travers de son compte et sans effort considérable, d'avoir un impact positif sur le monde. Nous proposons un compte 100% mobile avec une multitude de services innovants qui va permettre aux clients de pouvoir avoir un aperçu des émissions carbone liées à sa consommation. Nous mettons aussi à disposition du client un coach et un outil suivi personnalisé et personnalisable afin que le client puisse de manière très simple et très, très rapide avoir un impact positif. Nous nous engageons également à verser tous les mois 1 € par mois et par client pour financer des projets à impact social et environnemental très fort, et nous nous engageons également tous les ans à reverser 10% de nos revenus pour financer des projets de transition écologique. Aujourd'hui, on est en phase de précommande. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un impact positif et s'investir dans la création du monde bancaire de demain, on les invite à visiter notre site onlyonecard.eu pour commander la carte qui, au passage, sera la première carte recyclée en France.
Bon. Only One, donc c'est un compte. Hein. Merci Kamel pour votre pitch. Vous avez un petit peu dépassé la minute 30. Jean, je me tourne tout de suite vers vous. Jean, notre coach du jour, déjà votre avis sur son pitch ?
Bah moi, je trouve ça assez clair. La fintech, c'est un secteur dans lequel il y a plein d'innovations. Et ce qu'on appelle la fintech for good, c'est une tendance. Hein. Donc, la question que j'ai, moi, pour Kamel, c'est on sait que le secteur bancaire est un secteur qui est ultra compétitif. Il le sait puisqu'il a passé 17 ans chez HSBC. Donc, je voulais voir quelle était sa stratégie pour émerger face à des BNP, des Sociétés Générales, Crédit Agricole et consorts, en tant que petite start-up.
Effectivement, en tant que petite start-up, on se bat on va dire que c'est le combat entre David et Goliath. Pour autant, on voit bien que le phénomène de la néobanque est en accélération, qu'il y a un mode d'adoption qui se fait de plus en plus rapide. On a 40% quasiment des ouvertures qui sont faites auprès des néobanques. Donc effectivement, on vient qu'un service qui est innovant, avec des fonctionnalités qui sont innovantes, et aussi une proposition de valeur qui est différente. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche, et là, on réécrit vraiment les codes de la banque. Et on souhaite demain pouvoir construire le modèle bancaire qui soit plus éthique.
Donc vous voulez révolutionner le secteur bancaire ?
Exactement, c'est l'ambition.
C'est l'ambition. Vous avez un associé, vous êtes deux ?
Nous sommes 3 associés.
3, d'accord.
3 associés, et Mathias et Amine. Mathias est un expert dans le développement d'applications mobiles. Amine a travaillé pendant 20 ans sur des aspects de marketing digital. Donc on est une équipe assez complémentaire. On a l'ancien banquier, le tech, et puis la personne qui est plutôt... axé sur la communication.
Une équipe complémentaire, il y a déjà quelques soutiens puisque la Banque publique, la BPI, vous soutient dans ce projet.
Tout à fait. Nous avons été subventionnés par la BPI en obtenant la première subvention, donc la bourse French Tech. Mmh. Et nous avons aussi été soutenus par des investisseurs privés qui avaient justement envie de participer à un projet comme ça qui avait un impact à la fois très fort au niveau environnemental et avec peut-être une rentabilité mesurée.
Dora,
si je m'abonne, je sais ce que je finance comme
Exactement.
Programme.
Tout à fait, on aura une totale transparence vis-à-vis de ce qui sera financé et on va même aller plus loin et proposer à nos clients de choisir avec nous les projets à financer.
Jean, je crois que vous aviez une autre question.
Oui, donc concrètement, moi, si je suis client chez vous, vous allez placer mon livret A ou mon livret développement durable sur des produits qui sont tous à impact social ou environnemental positif, c'est ça hein ?
Alors déjà, dans un premier temps, effectivement, c'est le compte en lui-même, le compte courant sur lequel on met ses dépôts qui va avoir un impact positif. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on veut se diriger vers de l'épargne et ne choisir que de l'épargne positive, de l'épargne verte qui finance que la transition écologique ou des projets sociétaux.
Vous n'allez pas financer des projets d'hydrocarbures ou des projets de forage.
Comment vous allez vérifier tout ça ? C'est qui vos sources ?
Il y a des critères ESG aujourd'hui qui existent. On est aujourd'hui accompagné aussi par des experts du climat, des experts qui aujourd'hui peuvent nous dire qu'effectivement tel ou tel produit, et d'ailleurs il y a certains labels, notamment le Green Label du ministère de l'écologie et de la transition écologique, enfin du ministère de la transition écologique. Et effectivement, on va s'appuyer sur des experts pour pouvoir être sûr que nos produits soient totalement verts.
De quoi avez-vous besoin ? Comment peut-on vous aider ? Là, aujourd'hui, vous êtes dans la France Bouge. Comment peut-on vous aider, Kamel ?
Comment nous aider ? C'est d'aller maximum sur le compte, de se préinscrire, de précommander sa carte.
Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur quel compte ?
Sur le site internet, pardon, onlyonecard.eu. Et voilà.
Il y a un minimum ?
Non, il n'y a pas de minimum, c'est sans engagement. Nous allons sortir une offre de lancement qui sera à tarif compétitif. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum de visibilité aussi, de pouvoir gagner en visibilité vis-à-vis du grand public.
Je peux y mettre mon salaire ?
Alors, vous pouvez y mettre votre salaire.
C'est pas risqué ?
Alors non, aujourd'hui, on a les mêmes garanties que les banques. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent est séquestré sur un compte qu'on appelle de cantonnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes garanties que n'importe quelle banque. Et vous pouvez faire toutes les opérations bancaires du quotidien. Les virements, les prélèvements, c'est vraiment l'usage que vous pouvez avoir dans une banque actuelle.
Jean, ça vous tente ? Vous êtes convaincu ?
Oui, ça me tente. Je vois qu'il y a beaucoup d'effervescence autour du concept de néobanque et de banque
énormément.
En ligne, donc je pense qu'il y a la place.
Il y a de la place. Alors, si Jean vous le dit, c'est que vraiment,
Merci,
il y a de la place. Ça s'appelle Only One, le premier compte en banque à impact positif. Merci à vous, Kamel Naït Outaleb.
Merci à vous.
Europe 1.
Comment rendre la téléconsultation de plus en plus en vogue, accessible et rassurante pour le patient ? Dora Nana a la solution. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de la solution du jour avec vous, Dora. Aujourd'hui, vous nous avez apporté une solution dont on va avoir tous besoin. Il s'agit du secteur de la téléconsultation. Et je crois que vous avez quelque chose, vous avez réponse pour nous rassurer.
C'est un kit, Elisabeth, développé par la plateforme maquestionmedicale.fr et c'est une solution qui améliore la consultation de télémédecine car aujourd'hui, elle se fait en visioconférence et là, on met des outils connectés à disposition du patient, par exemple dans les pharmacies, prise de tension, fréquence cardiaque, des objets qui rendent la téléconsultation plus efficace. En fait, c'est un peu la technologie qui devient le prolongement du médecin. Médecin que j'en retrouve tout de suite. Bonjour Jean Tafazoli.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Dora, bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes médecin et fondateur de maquestionmedicale.fr. Alors moi, j'ai une question. Aujourd'hui, tout le monde sait comment ça se passe quand on prend rendez-vous pour une consultation en télémédecine. Donc, on va sur votre plateforme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je parlais de pharmacie. Vos outils sont disponibles à la pharmacie. Comment ça se passe la suite ?
Alors oui, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez tous cette image de la télémédecine, de la téléconsultation via un simple chat vidéo. Nous, chez Ma Question Médicale, donc déjà on est créé, géré, financé par des médecins, on est une communauté de médecins, et on a imaginé que la télémédecine de demain, ça devait être avant tout une télémédecine qui vous permette d'avoir un réel examen clinique, donc comme en cabinet, hein, de créer véritablement un cabinet virtuel à disposition du médecin et des patients. Pour cela, effectivement, nous avons développé un kit qui comprend un ordinateur et plusieurs appareils Bluetooth qui envoient directement les données de l'examen clinique depuis le patient qui est, par exemple, en pharmacie, vous l'avez cité, vers l'ordinateur et de l'autre côté, vers le médecin. Donc, c'est le médecin qui pilote depuis son cabinet ou depuis là où il est, hein, s'il est à l'hôpital ou dans un établissement quelconque. C'est lui qui pilote véritablement les appareils Bluetooth que le patient utilise pour l'examen clinique.
Et comment il est guidé, le patient ? Parce que donc, on imagine un tensiomètre. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que le médecin, à distance, via la visio, quand même, il peut m'indiquer où le placer ? Comment l'actionner ? Ou vos outils sont tellement simples que n'importe qui
Alors, tout à fait. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du stéthoscope. On a développé un stéthoscope qui contient une intelligence artificielle qui est capable d'écouter votre cœur, mm-hmm. vos poumons, d'analyser les sons, de donner au médecin une véritable analyse avec une aide au diagnostic. Mais côté patient, ce stéthoscope, c'est une simple sphère. Il suffit de la secouer pour l'allumer et de la poser sur le thorax aux endroits indiqués sur l'écran. Donc, vraiment un moyen simple et efficace qui permet à tout patient, en toute autonomie, de participer à l'examen clinique.
Comment les médecins accueillent votre solution ? Parce que le stéthoscope, c'est tellement l'emblème de ces longues années d'études de médecine. Là, j'ai l'impression que ça devient un objet banal, alors que c'est quand même le plus important quand on devient
justement,
médecin.
Justement, toutes les solutions qu'on a pu observer jusqu'à maintenant ont demandé souvent aux pharmaciens de jouer au docteur. C'est-à-dire de prendre un stéthoscope, d'écouter le cœur du patient et de retranscrire.
Ils ont un stéthoscope, les pharmaciens. Je savais qu'ils avaient un tensiomètre.
Chez certains concurrents, on a vu dans certains kits, on a vu donc des pharmaciens sur des reportages écouter un cœur ou des poumons et retranscrire aux médecins ce qui se passait dans la pharmacie. Ça, c'est ce dont nous ne voulons pas, hein, ce dont les médecins ne veulent pas, ce dont on ne veut pas non plus chez maquestionmedicale.fr. Et l'accueil est plutôt positif puisque effectivement, c'est un prolongement du bras du médecin, hein, un véritable canal de communication entre le médecin et le patient, qu'il soit dans une pharmacie, dans une mairie, dans les zones isolées, dans les déserts médicaux. C'est vraiment la solution pour avoir accès correctement, médicalement, aux patients.
C'est important de préciser dans les déserts médicaux parce que tout de suite, ça change votre solution. C'est-à-dire que là, on comprend mieux l'intérêt et la portée de votre solution de mykestionmedical.fr. Jean Moreau, notre coach, vous avez une question pour un autre Jean, pour Jean Tafazoli.
J'ai une question sur la double vie qu'il mène. Est-ce que c'est possible d'être à la fois un bon entrepreneur et un bon médecin ou est-ce qu'il y a forcément une casquette qui prend le pas sur l'autre ?
Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, y a effectivement deux casquettes et que c'est, on va dire, le début de l'aventure, hein, même si ça fait 2 ans qu'on a créé cette entreprise. J'ai dû, à contre-cœur, réduire un peu mes horaires en cabinet, puisque j'exerce près de Lyon en cabinet. Heureusement, je pratique une profession où, étant libéral, on peut facilement adapter ses horaires à d'autres activités. Voilà.
Dora,
question pratique encore. En général, justement, par rapport à la visio, ça pose un souci, c'est qu'on se retrouve avec l'ordonnance par mail. Parfois, on n'a pas d'imprimante pour l'imprimer. Là, on repart avec, si on est à la pharmacie ou ailleurs.
Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question parce que une des choses qui a un peu choqué les médecins durant, par exemple, la période Covid, là, ce sont les ordonnances qui étaient scannées, que le patient recevait par exemple par mail, qui est un moyen non sécurisé de transmettre des documents de e-santé. Et chez ma question médicale, on a réfléchi avec les pharmaciens à une solution sécurisée. Sécurisée parce que vous recevez dans l'interface directement de ma question médicale une ordonnance sécurisée par un QR code, lequel QR code permet aux pharmaciens de savoir si cette ordonnance a déjà été délivrée ou pas. Il n'y a plus de problème de duplication d'ordonnance. Vous savez qu'avec toutes les autres solutions, vous pouvez récupérer l'ordonnance, l'imprimer et puis vous rendre dans plusieurs pharmacies. Ça, on n'en voulait pas. C'est quelque chose qu'on a réfléchi avec la profession médicale et avec nos confrères pharmaciens.
Le pharmacien ne se substitue pas au médecin. Il va l'aider avec tous les outils. Ça ne va pas lui faire perdre trop de temps.
Alors justement, c'est tout le but du kit, hein, c'est tout le but de la facilité d'utilisation de ces appareils. Ayant moi-même un frère qui est pharmacien sur Paris.
Il est bien accueilli.
C'est très bien accueilli puisque le kit est facile d'utilisation et le but c'est justement que le pharmacien ne perde pas de longues minutes à aider le patient. Il a simplement un écran devant lui, quelques appareils, on lui explique comment les utiliser, tout est simple.
Et demain, ça sera ailleurs. Là, aujourd'hui, c'est la pharmacie. Demain, c'est dans la mairie, dans les collectivités. Ça peut même
vous
être dans un lieu de travail,
raison,
d'ailleurs.
Dora, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est la réponse à la présence des déserts médicaux en France.
C'est ça, il faut commencer par là.
Voilà, ce n'est pas important. Le nombre de médecins qu'il faut toujours augmenter. C'est l'organisation territoriale.
C'est l'organisation territoriale pour combler ces déserts médicaux. Merci, Jean Tafazoli.
Merci à vous.
Vous êtes médecin hein, et vous êtes le fondateur de My Question Médicale. Merci.
Europe 1.
Qui n'a pas maintenu le rituel de l'apéro pendant le confinement hein, je vous vois tous là. Et bien, juste après le retour de l'apéro en chair et en os, le moment de l'apéritif, c'est toujours un succès. Et on va le voir, des innovations s'installent sur le marché, des chips particulières, des box apéritifs ou encore des insectes comestibles. Vive l'apéro! C'est le dossier du jour, à tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est l'apéro, c'est le moment de sortir les bières du frigo. Chips et le guacamole à la mexicano. C'est l'heure de te proposer un bon mojito.
Ouais, mais avec modération, évidemment, hein, Dora.
Toujours la modération.
Toujours la modération pendant les apéros. Qui dit apéro dit aussi chips. Et chaque année, les Français consomment environ 1 kg de chips par personne. Ces derniers mois, avec le confinement, les ventes se sont envolées et les professionnels surf sur cette tendance. Bonjour Étienne Lemoine.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de la chips française. C'est une chips, oui, mais c'est d'abord une histoire d'amitié et de goût, cette chips. Hein, pour arriver à l'élaboration d'une super bonne chips, il y a eu toute une histoire derrière. Racontez-nous.
Exactement. Bah, en fait, tout a commencé avec André, donc le cofondateur aussi. On était en primaire ensemble, ensuite on a évolué chacun de notre côté, on a fait 50 colocations et par la suite bon, on a été chacun un peu dans notre lieu, dans des études différentes et on s'est retrouvés pour fonder justement la chips française. Donc tout a commencé à la ferme de Coquerel, donc une ferme familiale puisqu'on est tous les deux issus de familles d'agriculteurs. Donc André était parti plus dans l'agricole, moi j'étais parti plus sur la distribution, en grande distribution. Et donc, on s'est dit tous les deux que, bon, on avait envie d'entreprendre. Donc après, on avait des fermes à disposition. Donc on s'est dit, on va créer de la richesse avec nos fermes. Donc on s'est dit qu'on avait de la matière première au sein de ces fermes.
Donc, il y avait la pomme de terre.
Exactement. Et donc du coup, on est parti sur la pomme de terre parce que, bon, on aimait bien ça. On trouvait ça justement convivial, sympa. Et on faisait des chips lors de nos apéros en colocation, chips maison.
Vous faisiez vous-même vos propres chips.
Exactement.
Il paraît que c'est très très long à préparer des chips.
C'est pas évident, mais le jour vaut la chandelle parce que c'est excellent.
Alors justement, vous avez préparé pendant quand vous étiez en colocation avec votre associé des chips. Vous vous êtes dit, mais elles sont tellement bonnes qu'on va les vendre, on va les commercialiser.
Exactement, bah, en gros c'était les prémices. Après on a continué, on a fait une étude de marché.
Évidemment.
On a avancé sur le sujet et finalement on s'est dit ouais, on va se lancer, il y a quelque chose à faire. Et du coup on est parti sur la chips française. Ouais.
Alors cette chips française, c'est pas une chips comme les autres, hein. Elles ont un goût particulier. Qu'ont-elles de différent par rapport aux chips que l'on trouve sur le marché? Parce que vous êtes énormément sur ce marché de la chips. Pourquoi comment vous vous différenciez?
Oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs sur le marché. Maintenant, nous, on a pris un positionnement où on crée déjà la matière première, on fait pousser notre pomme de terre au sein de la ferme familiale. Et là, on va venir vraiment la transformer chez nous. Donc déjà, beaucoup moins de dégagement de CO2. Le champ par rapport au lieu de transformation se trouve à peu près à environ 600 mètres. Et ensuite, on va être sur une cuisson particulière, une cuisson au chaudron. Donc, il faut imaginer un peu le chaudron d'Obélix, un petit peu plus gros, où là, vraiment, on va faire cuire la chips. Et on va être sur une chips qui va être plus épaisse, donc qui va vraiment rendre le goût de la pomme de terre, ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Et on va saler beaucoup moins pour vraiment rendre le goût de cette fameuse pomme de terre en bouche.
Et puis, tout est fait en France, hein. c'est important de le préciser. Vous avez réduit l'impact écologique, même pour la fabriquer, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de transport une fois que vous l'avez terminé.
Bah après, on va venir distribuer nos distributeurs qui sont aux alentours. Et oui, là, on est sur la région et sur Paris.
Sur la région et sur Paris. Que dit notre coach Jean Moreau?
J'ai vu que donc vous parliez d'une chips premium sans ingrédients chimiques. Il y a quoi comme ingrédients un peu toxiques dans les chips de vos concurrents qui justifieraient le surcoût de votre produit à vous?
Nous déjà, c'est la cuisson au chaudron qui va être qui est vraiment spécifique. Le besoin en main d'œuvre, on va utiliser de l'huile de tournesol française. On va utiliser du sel français, donc situé sur le sel des deux caps du Cap Griné Blanc-Né situé sur la côte d'Opale. On a choisi vraiment des ingrédients qui sont français, d'autant plus local dans les Hauts-de-France.
Et Jean parlait de surcoût, vous pouvez nous en dire plus sur les prix?
Bah, si vous voulez, nous, on est artisanal, donc le coût de fabrication est déjà beaucoup plus important. Les volumes sont beaucoup plus faibles que des industriels. Et après, la distribution, par exemple, les industriels, ils vont acheter des semis de carton, des semis d'huile, des semis de... Donc, ils vont diviser les coûts que nous, on peut absolument pas faire.
Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes 5 personnes dans votre entreprise, hein, dans la chips française. C'est quoi la suite? Comment vous envisagez votre développement?
Alors déjà, ouais, sur l'aventure, nous sommes 5 personnes au bout d'un an et demi, donc on est déjà super heureux.
Vous avez donc créé 5 emplois.
Exactement. Et du coup, là, la suite, on espère avancer sur le marché français et aller le plus loin possible, tout en gardant notre esprit vraiment.
C'est quoi le plus loin possible? C'est aller où?
En France, sur le marché français.
Vous visez combien de parts de marché et combien de volume de vente par jour? Aujourd'hui, vous vendez combien de paquets par jour pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs?
Pour donner un ordre par jour, on va être à 150 paquets, je pense, par jour. Au niveau des parts de marché, je n'irai pas jusque-là parce qu'on est des petits artisans. On espère aller très loin. Pour l'instant, on veut continuer à faire ce qu'on fait.
Vous voulez sortir de Paris et être étendu partout en France. On vous trouve où aujourd'hui? Dans quel type de magasin?
On va nous retrouver chez Intermarché, chez Leclerc, chez Carrefour, un peu chez Monoprix. Et ensuite aussi dans les boucheries, les épiceries fines et les ventes à la chaîne.
Ah oui, je crois que je vous ai vu dans une épicerie fine. Et comment aujourd'hui vous allez... Là, vous faites la chips, j'allais dire basique, mais le mot n'est pas approprié. Mais est-ce que vous allez mettre des saveurs différentes?
Oui, on va aller sur des saveurs différentes. On est déjà en train de travailler sur le sujet. Et ce qui nous semble important aussi, c'est de travailler avec d'autres acteurs. On est sur différents coups, je ne peux pas énoncer pour la suite. Mais on va travailler avec des producteurs locaux, des agriculteurs. Et on va vraiment faire travailler le circuit court, finalement.
Les circuits courts et puis pour pouvoir continuer à développer et à vendre votre délicieuse chip française. Tiens, Dora, d'où vient ça vient cette tradition de l'apéro?
Bah déjà, le mot, ça vient du latin, apérire, qui veut dire ouvrir. Alors, c'est ouvrir, mais non pas une bouteille, mais les pores de la peau, par exemple. Parce que dès le Moyen-Âge, on avait pris cette habitude de boire un petit verre avant le repas, mais c'était en réalité pour s'ouvrir l'appétit. C'était des remèdes à base de plantes et aux vertus thérapeutiques. Et c'est en Savoie qu'on trouve les premiers apéritifs médicaments, si je puis dire, à base d'herbes. Alors, là, il y avait de l'absinthe, de l'anis, de la gentiane. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour qu'on y ajoute du sucre. Et là, l'apéro se démocratise.
Et l'apéro se démocratise. Vous mettez quoi dans vos... Je me suis toujours posé cette question, donc j'en profite avec vous, Étienne Lemoine. Vous mettiez quoi dans la chips pour qu'on en mange toujours plus d'une?
Alors nous, il y a un truc. Rien de plus finalement. Notre recette est vraiment très simple. C'est de l'huile, de la pomme de terre et du sel.
Mais il y a une façon de cuire, mais il y a un truc. Je me suis toujours posé cette question. Il y a toujours.
On en prend une
et le paquet est vide au bout de quelques minutes. Merci à vous, Étienne Lemoine, le cofondateur de la chips française, qui était avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Il est à l'anis et à la réglisse, emblème des apéritifs dans le sud de la France. Le pastis a décidé de changer de région. Les Bretons ont décidé d'inventer un pastis à leur manière et ça s'appelle le brastis. Et on le découvre à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Un pastis bien frais, c'est si bon, c'est si doux quand ça glisse. Un pastis bien frais, c'est si bon, c'est l'apéro parfait.
Mais on le rappelle encore et toujours avec modération, hein. C'est hyper important de le garder bien ça en tête. Alors là, on entend chanter le pastis bien frais, mais savez-vous qu'il existe du pastis breton? Ça pourrait être une plaisanterie, mais pas du tout. Le brastis, c'est la contraction de braise et pastis. C'est une création de la Maison Jouff, qui est spécialisée dans les spiritueux. Bonjour Laurent Jouff.
Bonjour Elisabeth. Tout d'abord, merci à vous et à tous les auditeurs d'Europe 1 de me recevoir chez vous et chez eux.
Et ben, on est ravis de vous avoir nous aussi. Vous êtes le gérant de la Maison Jouff et c'est vous qui avez développé le brastis avec un B à la place du P parce que vous êtes en Bretagne. Ça existe depuis janvier 2019. Vous êtes situé à Dinan, dans les Côtes d'Armor. Mais alors c'est quoi le brastis? Le pastis, c'est bon? Pourquoi vous avez voulu faire autre chose?
Bon, en fait, le brastis est un autre pastis. À cette question, je réponds invariablement que Alors j'ai deux produits quand même. J'ai un Brassis pour les cavistes et j'ai le vieux Briscard pour la grande distribution. Deux produits différents. Mm-hmm. Je me suis inspiré des plus grandes marques françaises et des grands amateurs de trois de ces grands anisés qui m'ont aidé à mettre mon produit au point. Et puis j'y ai apporté ma sensibilité de druide breton. Donc voilà. Donc j'ai pas fait un pastis au kouign-amann ni au beurre salé. Ah. Et apparemment c'est une réussite. Hein. J'ai même réussi à conquérir quelques palais marseillais.
Bon, alors dans ces cas-là, vous avez tout dit. Alors au début, vous êtes allé, ça a commencé en fin janvier 2019. Hein, vous avez sorti ce brastis pendant le confinement. Vous êtes dit, je vais proposer du pastis breton en cubit de 3 litres. Donc vous avez en plus innové là pendant la période de crise.
Oui, alors c'est vrai. Alors bon, si on veut revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est quand même vraiment important ce qui nous est arrivé, et on est encore un peu nous-mêmes sous l'effet de la surprise, de l'étonnement, et ça ne cesse de rebondir. Fin 2018, si on revient à ce moment-là, mon neveu, on était dans une situation un peu difficile suite à un changement stratégique et plusieurs choses qui s'étaient passées cette année-là. Et on avait envie de faire quelque chose de différent. Et avec mon neveu Julien, pour se détendre, on a dit on va développer le pastis breton, un pastis breton. Voilà, avec l'idée seulement d'en vendre quelques centaines de bouteilles. C'était vraiment pour rigoler. Hein. J'étais jusqu'ici un breton avec des produits d'ailleurs. Et j'ai décidé de faire en Bretagne un produit originellement d'ailleurs. Donc ça a été le début. À ce moment-là, il y a eu trois articles de journaux bretons qui ont fait un petit article sur nous. Je pensais que ça serait resté local. Et là, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet pour vraiment démarrer un phénomène d'une ampleur médiatique majeure, puisque plus de 250 de vos collègues nous ont, et pas des moindres, nous ont parlé de nous,
ont
parlé
de notre aventure. Ils ont parlé de votre aventure. Il y a quoi dans votre pastis?
Comme tous les pastis, hein, je veux dire,
il y a
le Brastis et le vieux Briscard sont à base d'anis, de réglisse, d'alcool pur à 90 degrés, réduit à l'eau bretonne pour le ramener à 45 degrés par des bretons, et puis avec des sucres. Le tout est vraiment soigneusement choisi et avec le tour de main, je répète, du druide breton, voilà. Bon, comme je dis souvent, c'est comme un plat. On a beau avoir un certain nombre d'ingrédients similaires, il y a le tour de main du chef et les spiritueux, c'est la même chose. Mais par contre, c'est vrai que pendant la période de cette crise sanitaire, 2020, après un excellent départ très prometteur et déjà quelques milliers de bouteilles de Brastis et de vieux Briscard vendus, ben, le ciel, partout à Tisse, nous est tombé sur la tête, mais non seulement sur la tête des irréductibles gaulois, mais du monde entier. Mmh. Et tout s'est arrêté avec les premiers rayons de soleil. Ça a été très, très, très dur. 2 mois de crainte et stress où 20 ans d'efforts peuvent basculer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai travaillé seul et d'arrache-pied dans mon système, me concentrant sur la sortie de crise qui adviendrait inévitablement. Et j'ai conceptualisé mon approche par trois mots, audace, innovation, communication. Voilà, l'idée du BIB m'a paru, c'était le moment de le lancer. J'avais envie de remettre le sourire sur le visage des gens et on a travaillé d'arrache-pied pour lancer ça. Alors, il y avait quand même des raisons. Alors, c'est un sujet qui fait rire parce que c'est vrai que c'était un petit peu mon idée. Tout le monde était un petit peu angoissé et je me suis dit, un BIB, pour ne pas dire cubi, je trouve ça moins joli de 3 litres, ça n'allait forcément pas laisser les gens différents. Oui. Mais et c'était une volonté aussi d'être solidaire à ce moment-là avec les petits commerçants, cavistes, épiceries, qui se retrouvent dans le mode de fonctionnement. Puisqu'on emporte son bib de 3 litres de chez le caviste, si c'est du Brastis, ou on vient recharger sa bouteille vide chez son caviste.
Bien sûr.
Ce qui permet de racheter autre chose. Voilà. C'est en plus économique, puisque la bouteille de Brastis vendue au prix de vente diminue de façon très très importante grâce à cet effet. On est à moins de 20 euros la recharge, donc là on commence à vraiment... Il n'y a plus de freins, quoi. On lève un certain nombre de freins.
Ouais, donc vous
les gens peuvent se dire qu'ils peuvent garder leur belle bouteille et la consommer. Et c'est écologique, parce qu'en fait, on réduit notre indice carbone de 40% par rapport au verre, puisqu'il faut aller chercher le minerai, il faut le transformer dans des fours, il faut le transporter, c'est lourd, il faut le recycler, c'est pas totalement parfait. Donc voilà, on m'a convaincu finalement avec une étude.
Donc vous avez d'ailleurs la première production a été vendue en une semaine. Hein, vous avez même dû augmenter vos capacités de production. Jean Moreau a une question pour vous.
Oui, on sait que les Bretons aiment bien réinventer les classiques. Hein. On connaît tous le Braise Cola. Moi, je ne connaissais pas le Brassis, mais je suis ravi de le découvrir. Et je voulais savoir comment vous réagiriez si un gros acteur du secteur vous faisait une offre de rachat, type Pernod Ricard. Vous resteriez indépendant en irréductible breton ou vous rejoindriez la grande aventure?
Je, 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 je crois que déjà il faut regarder la proportion des choses. Nous sommes une petite goutte de pastis dans l'océan du pastis. Voilà, il faut quand même remettre. Nous sommes une entreprise artisanale. Effectivement, j'ai eu des contacts avec des gens. J'ai aussi eu, ce qui est assez marrant, beaucoup de félicitations, parce que finalement, quelque part, on a réinventé quelque chose. La bouteille est magnifique, la bouteille de sont toutes deux magnifiques d'ailleurs, elles reprennent des symboles. Donc finalement, on a redynamisé un tout petit peu la catégorie. C'est ce que m'ont dit plusieurs commerciaux des entreprises très connues, qu'on ne citera pas ici. Mmh. Et donc, voilà, je pense que on est une entreprise familiale. J'ai mon neveu qui travaille avec moi, j'ai mes fils qui s'intéressent à cette histoire-là. Notre histoire de famille, j'ai pu remonter à 1850, nous sommes une famille d'agriculteurs qui produisait son cidre et ses spiritueux. J'ai d'ailleurs un cognac, le cognac Jouffe, le Calvados Marcel Elia Faucheur, mes grands-parents, et le rhum Orava, qui font partie de l'histoire d'une arrière-grand-oncle de mon épouse. Enfin voilà, je veux dire, par là, on n'est pas dans cet état d'esprit fils, petit-fils, arrière-petit-fils agriculteur. Voilà, et j'espère que ça va continuer. C'est vraiment ça, mon moteur.
C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Pas ça. Vous vendez où aujourd'hui? Vous êtes réservé à la vente chez les cavistes, mais aussi dans les restaurants, dans les hôtels?
Alors, comme j'ai expliqué, on a vraiment deux réseaux. On a vraiment deux produits différents par la recette, la bouteille et la marque, qui sont des produits complémentaires et différents. Donc, les pastis bretons, Brastis, Braise, Bretagne plus pastis, pour les cafés, les cavistes, les cafés, discothèques, hôtels, tels que le réseau magnifique HCCB, hôtels de charme et caractère breton, ou différents types de restaurants, y compris les plus grands, comme chez plusieurs grands chefs, Dufossé, Boiset et bien d'autres. Et le deuxième produit, le pastis breton vieux briscard, qui est un produit différent tout en restant très qualitatif, qui lui est pour toute la grande distribution.
Voilà, qui a un petit peu moins.
Et fonctionne très bien. On a d'ailleurs été reçu. Voilà, on a été reçus, on est dans plus de 100 magasins sans connaître personne, et nous sommes chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour, enfin, etc., etc.
C'est une histoire qui roule. Jean, on entend l'entrepreneur là encore, hein.
Oui, on voit bien la fibre entrepreneuriale et vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été bien perçu par les Marseillais, mais je me demandais s'il n'y avait pas un peu de jalousie et si vous verriez un jour... Un pâtissier marseillais sortir un Queen Amman provençal, comment vous le prendriez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des batailles de région comme ça?
C'est vraiment une minorité. Certains Marseillais étaient irrités, effectivement. Mais moi, je suis un rassembleur, pas un diviseur. D'autre part, c'est vrai qu'il y a deux fortes identités régionales qui se sont un peu retrouvées sur un sujet sensible. Mais en réalité, ça reste généralement bon enfant. Au départ, ça m'a fait un peu peur. Il y avait quand même des réactions qui étaient un peu brutales. Mais elles sont très sporadiques. J'ai beaucoup d'encouragements, au contraire, voire des remerciements. J'ai aussi des amis chez d'autres producteurs du sud de la France, des gens que j'admire. Alors on se retrouve sur les salons, donc on discute de tout cela. Non, à chaque fois qu'on parle de pastis breton, il y a effectivement quelques petites épidémies, mais on est plutôt accueillis chaleureusement. On est une petite famille, une petite entreprise artisanale. Voilà, on cherche pas à se faire plus gros que nous ne sommes. On n'a jamais dit qu'on avait inventé le pastis. On a juste,
réinterprété
à notre manière. Voilà.
Oui, c'est le pastis revisité, hein, comme on dit chez les chefs.
Exactement.
Dora, l'apéro pour les Français, c'est vraiment une institution.
Ah, c'est un art de vivre à la française. Incroyable. On aime tellement ça que même pendant la période du confinement, on a réussi à inventer l'apéro virtuel. C'est vous dire. Et
ouais,
il suffit de voir.
Ça.
Voilà, ça vous fait rire, mais il suffit de voir le chiffre d'affaires du secteur. Il a bondi de 50% en 10 ans, ce chiffre d'affaires. Plus de 20 milliards d'euros quand même. Hein. Il y a 7 milliards pour l'alimentaire et 13 milliards pour les boissons. Alors l'apéro, c'est surtout le week-end, hein, en trinque entre amis, en couple, en famille. Pas tant que ça avec ses collègues, j'étais surprise sur les derniers chiffres. On fait l'apéro surtout chez soi.
On sait se tenir avec les collègues.
Pas forcément au bar, c'est pour ça. Ça doit être peut-être, il faut y voir un petit clin d'œil là. Et on boit du vin, du whisky, de la bière et les boissons non alcoolisées sont quand même minoritaires. Et voilà, et attention, on le répète, toujours boire avec modération.
Et oui, toujours avec modération. Merci à vous Laurent Jouffe, le gérant de la maison Jouffe. Vous avez développé le pastis breton, le Brastis.
Europe 1.
Recevoir l'apéro directement à la maison, c'est possible grâce à une box, une boîte surprise qui arrive chaque mois à votre domicile. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et on y est là. On y est, hein, Dora.
Eh ouais, ça, c'est la chanson
par excellence de l'apéritif. toujours avec modération, on ne vous le répétera jamais assez. Alors imaginez que vous recevez chaque mois une boîte avec des produits gourmets, hein, de petits producteurs dénichés dans les campagnes françaises. Et bien, c'est ce que l'on retrouve dans la boîte apéro. Bonjour Anthony Bell.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes cofondateur de la boîte BOIT apostrophe apéro. C'est une box, hein, c'est une boîte inédite qu'on reçoit chaque mois avec dedans une bouteille de vin accompagnée de gourmandises à déguster comme des biscuits, des petites tartinades ou de la charcuterie dans chaque boîte. Comment vous sélectionnez les produits?
Alors, les produits, on a démarré il y a 4 ans. On a commencé par sélectionner des produits autour de chez nous.
Rappelez-nous où vous êtes.
Alors, je suis dans un petit village de Saint-Sernin-sur-Ince, dans l'Aveyron.
Ah ben voilà, là on y est. Et donc, il y a 4 ans, vous avez démarré la boîte apéro en sélectionnant des produits particuliers de votre région.
C'est ça, l'idée c'était de proposer un concept déjà qui n'existait pas. Les abonnements autour du vin existaient, des bières. On s'est dit pourquoi pas proposer un apéro complet en fait, qui serait livré à domicile avec des produits qu'on dénicherait comme si on allait au marché, chez son boucher chercher de la charcuterie, dans une biscuiterie artisanale trouver ses biscuits et d'envoyer tout ça partout en France accordé autour d'un bon vin.
Et vous l'envoyez chaque mois, ça, c'est quoi? C'est un abonnement? Ça marche comment?
Alors c'est ça, c'est un système d'abonnement de 1 à 6 mois renouvelable.
De combien?
On peut commander une seule box, deux box, trois box, six box. Où on va recevoir en effet entre le 7 et le 15 du mois le coffret à domicile.
Anthony Bell, ça coûte combien vos boîtes?
Alors,
je crois qu'il y a des abonnements, il y a un mois, trois mois, six mois, c'est ça?
C'est ça, il y a un prix dégressif selon la durée de l'abonnement, ça démarre à 36 euros sur un abonnement de six mois, à 39 euros pour une seule box.
À 39 euros pour une seule box. Que dit notre coach Jean Moreau?
Moi, je me demande pourquoi l'abonnement est seulement mensuel. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais envie de la passer en rythme hebdomadaire, enfin d'augmenter la cadence. Et donc,
vous prenez l'apéro
D'augmenter la cadence. Je pense que je ne prends pas de risque.
Non,
je ne suis pas le seul ici. Hein.
C'est ça, j'allais vous dire, vous êtes dans la moyenne, Jean, ne vous inquiétez pas, c'est Doral.
Non, on ne va pas inciter. Non, c'est pour garder ce petit côté événement du mois où on est content de recevoir son coffret une fois par mois, pour proposer ce moment d'échange et de découverte. L'idée, c'est de passer un apéritif à déguster des produits, à échanger sur ces produits, à en parler, de passer un moment de découverte gustative, en fait. Donc, il faut que ça reste quand même événementiel dans le mois.
Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on est contents pour vous et on espère que ça va continuer à croître comme ça, parce que quand il y a un marché, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. On continue à parler apéritif, mais pas n'importe quel apéritif. On va parler des insectes. Vous avez déjà mangé insectes?
J'ai mangé du ver à soie.
Et vous, Jean?
Et c'était bon.
Non, merci, pas intéressé.
Ouais, moi, c'est pareil. Bonjour, Julie Gervaux.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Micronutrice. Alors vous êtes spécialisée dans l'élevage et l'élaboration de produits à base d'insectes comestibles. En fait, vous proposez des apéritifs à base d'insectes. C'est quoi exactement? Vous proposez quoi?
Alors nous, depuis 2011, nous sommes la première ferme d'élevage en Europe à élever des insectes comestibles, à Saint-Orens, à côté de Toulouse. Et nos produits sont composés de grillons et de ténébrillons, plus communément appelés vers de farine.
Mais vous les vendez où? Quel est votre circuit de distribution?
Alors nous, on les commercialise déjà sur notre site web, sur micronutrice.com, dans des magasins bio, des épiceries fines et dans tous les magasins grands frais qui sont au niveau national.
Donc on peut aussi les acheter sur votre site internet, c'est soit en boîte pour apéro, soit en sachet, soit on peut avoir les insectes en entier, grillés ou en crackers.
C'est ça, tout à fait. Donc, on a des insectes entiers aromatisés pour l'apéritif, avec des saveurs, des arômes différents, comme barbecue, qui sont des saveurs que l'on connaît bien, thym, curry. Ensuite, on a des insectes nature qu'on peut intégrer aussi dans des préparations culinaires type quiche ou salade, mais qui peuvent très bien se manger en apéritif. Et ensuite, on a des produits confectionnés pour l'apéritif, comme des biscuits salés.
Que dit notre coach, Jean Moreau?
Alors moi, je suis pas inquiet sur la tendance de fond, parce que je pense qu'avec les contraintes qui pèsent sur le système alimentaire, on y viendra forcément. La seule question que je pose en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que le marché est mature? Est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce qu'il y a encore une phase d'évangélisation? Et comme on le voit autour de la table, ni Elisabeth ni moi ne sommes prêts aujourd'hui à le faire.
Non, moi je suis pas prête, je le reconnais.
on est toujours, disons, dans une phase d'évangélisation, mais qui vraiment se développe de plus en plus. Et les gens prennent de plus en plus conscience qu'il faut de nouvelles sources de protéines pour pouvoir nourrir toute la planète.
Donc, nourrir toute la planète. Un insecte comestible de chez vous, c'est l'équivalent d'un steak de viande ?
Oui, c'est trois fois plus protéiné.
Trois fois plus protéiné.
En termes de protéines.
Okay. Ouais. Et on peut le manger sans crainte, même au niveau de la digestion, ça ne pose pas de problème ?
Oui, ça ne pose aucun problème. On a simplement des allergènes qui sont similaires aux crustacés et aux mollusques. Donc voilà, on conseille aux gens qui sont allergiques aux mollusques, aux crustacés, de ne pas consommer nos insectes.
Ça s'appelle Micronutrice. Merci à vous, Julie Gervreau. Voilà, on vient de faire un petit tour de ce qui existait dans les innovations françaises concernant l'apéritif. Jean, vous avez, je vous laisse conclure.
Moi, ça m'a juste donné plein d'idées pour mes apéros du mois d'août à venir. Donc,
j'ai plein de
produits à tester, plein de produits à goûter.
Je crois qu'elle vous a plu, la chips française.
Hein. Ouais, la chips française, le grillon, il y a plein de choses qui vont agrémenter mes soirées à venir.
Dora ?
Eh ben pareil, moi je suis prête à renouveler l'expérience et sur les insectes parce que je me dis que pourquoi pas, ça peut être un bel apéro d'avenir.
L'apéritif de demain. Merci à vous, c'est la fin de votre émission, de continuer à innover, à créer, à avoir des idées. Merci à Marjorie Adelson pour la préparation de toutes ces émissions de La France Bouge de l'été. Merci à vous Jean, vous nous avez accompagné pendant toute la semaine. On vous dit à bientôt, bonne fin d'été. Merci à vous évidemment Dora Nana.
Ben, je vous dis à très vite Elisabeth.
À très vite. C'est ça, la France qui bouge et qui nous permet d'écrire le monde de demain.